séquence pour comprendre et débattre avec Paul Masson. Paul Masson, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes formateur d'adultes, membre d'Attaque et de Culture et Liberté. Alors Paul, la semaine dernière, on a clos la série de séquences sur le thème de la mondialisation. Alors avant d'entamer un autre cycle de séquences, cette fois-ci sur le thème de l'altermondialisme, aujourd'hui vous nous proposez une séquence à propos de la directive Bolkestein. Alors Paul, pourquoi reparler de cette directive Bolkestein aujourd'hui ?
D'abord parce que la directive Bolkestein est passée au Parlement européen, et il y a eu un vote au niveau du Parlement européen. En plus, cette directive, au moment du débat sur le référendum européen, il en avait été beaucoup question. Et on nous avait même dit que c'était quelque chose d'enterré, que la directive de Bolkestein, on n'en parlerait plus. Et non seulement on en parle, mais elle suit son cours et les députés ont voté. En plus, il y a eu deux mobilisations relativement fortes. Un le 11 février à Strasbourg, qui a mis plusieurs milliers de personnes dans la rue d'Europe. Un, le 14 février à Bruxelles, qui a mis plusieurs milliers de personnes dans la rue, et on en a relativement peu parlé dans les grands médias. Donc c'est quand même un sujet d'actualité. En même temps, suivre les dossiers, et pas seulement faire des coups médiatiques, c'est l'enjeu de l'information.
La vue qu'on en a eue dans les médias, c'est que cette directive elle a été votée, mais aussi un peu quelque part vidée de quelques points qui posaient problème, notamment en France, c'est-à-dire l'histoire du plombier polonais.
Alors effectivement, la directive Bolkestein a été amendée, c'est-à-dire que le Parlement a fait son rôle, ce qu'est le rôle de tout Parlement, on lui propose des textes et il les amende. Alors qu'est-ce qui ressort après cette première lecture ? Premier élément, on pourrait dire que le Parlement a limité les dégâts que proposait la directive. Il a remis en cause le principe du pays d'origine. Le principe du pays d'origine, vous vous rappelez, c'était la législation qui s'appliquera pour un travailleur sera celle du pays d'où il vient. C'est-à-dire si un Polonais, oui, puisque c'était souvent l'exemple du Polonais qui venait en France, eh bien, ce serait la législation polonaise qui s'appliquerait en France. Cet article-là, celui qui a fait couler beaucoup d'encre, a été sorti. Les députés ne l'ont pas accepté. Deuxième élément qui a aussi limité les dégâts, c'est que certains secteurs sont exclus du champ d'application de la directive. Ce qui concerne les services sociaux, ce qui concerne la santé ou l'audiovisuel, la directive ne s'applique pas à eux. Donc on peut dire qu'il y a un certain nombre d'amendements ont limité les effets libéraux maximum qu'avait la directive. Ceci dit, si on regarde le texte qui a été voté, les bases de ce texte n'ont pas changé. La logique du texte n'a pas changé. On a toujours comme idée de fond, c'est que les travailleurs d'Europe sont de la main-d'œuvre qui doivent être mis en concurrence sur le marché du travail. Et cette mise en concurrence de salariés va se faire au détriment des salaires. À la limite, le patronat prendra les salariés les moins chers d'Europe, va avoir des conséquences au niveau de la protection sociale. Le patronat prendra ceux qui aura le moins de protection sociale payée et le domaine de la sécurité. Ça sera le moins offrant qui sera pris. La logique qui est restée va toujours vers l'harmonisation vers le bas pour les travailleurs. Concernant les entreprises, on n'a pas non plus une harmonisation, on ne va pas du tout vers une harmonisation des fiscalités qui ferait que les entreprises n'auraient pas intérêt à se délocaliser pour aller vers le pays qui aura la fiscalité la plus basse. Là, on est toujours dans la même logique où faisons en sorte de mettre en concurrence les pays pour qu'ils baissent les impôts et un pays qui baisse les impôts se prive de moyens d'action pour la redistribution des revenus, pour assurer les services publics, pour assurer le bien-être de sa population. Troisième aspect de cette directive qui a été votée, c'est dans les domaines qui reste du domaine de la compétence des États, l'ordre public, la sécurité, la protection de l'environnement, la santé publique, si les États souhaitent faire des dérogations à la loi du commerce, ils doivent avoir l'accord de l'Union européenne. C'est-à-dire que les États n'ont pas la possibilité, dans ces domaines-là, d'agir seuls. Il faut que la Cour de justice leur donne l'accord. Donc, la directive Bolkestein, qui est de moins en moins appelée Bolkestein et de plus en plus appelée directive des services, c'est exactement la même directive, hein, c'est le même texte, est passée, n'a pas changé de logique, on n'a pas revu l'orientation, on est toujours dans la mise en œuvre de l'accord général sur le commerce des services dont on a parlé à l'occasion de la mondialisation.
Alors peut-être, quelle est l'importance de cette directive concrètement, quelle est la suite? C'est vraiment une loi qui va s'appliquer ou est-ce qu'elle va être soumise au Parlement français aussi?
La directive Bolkestein ne va pas être soumise au Parlement français. On est dans le domaine de la législation européenne. Par contre, au niveau du processus pour faire la loi au niveau de l'Europe, il y a plusieurs étapes. On est passé une étape où le Parlement européen s'en est saisi, à modifier certains articles du texte qui était proposé par la Commission. La prochaine étape, ça va être les chefs d'État et de gouvernement qui vont s'en saisir. C'est fin mars, ça sera intéressant de voir ce que va faire M. Chirac, qui lui avait dit « cette directive est enterrée ». Suite à ça, il y aura probablement une deuxième lecture, voire une troisième lecture au Parlement. On est dans un processus long. Lors d'une émission précédente, je vous avais parlé qu'entre le moment où une directive commençait de sortir et le moment où elle était votée définitivement, l'ordre de grandeur se posait entre 3 et 4 ans. Une fois que la directive sera passée, si elle passe, les États seront chargés de mettre en œuvre leur législation pour qu'elle soit conforme. À ce moment-là, le Parlement français en sera saisi, mais il sera saisi pour faire en sorte que la législation française permette de faire ça. C'est ce qui est en train de se passer à une autre échelle, au niveau des OGM. À l'échelle de l'Organisation mondiale du commerce, on a voulu libéraliser le commerce et les OGM, de les mettre en œuvre. À l'échelle européenne, des décisions ont été prises pour que les OGM se mettent en place et maintenant on demande au Parlement français non pas de se positionner sur les OGM, mais de faire en sorte que les OGM puissent être mis en place en France. Le Parlement doit mettre en œuvre ce qui a été décidé ailleurs par quelqu'un d'autre.
Alors je reviens justement à ce vote des députés européens. Vous avez eu une démarche bien particulière par rapport à ce vote.
Oui, concernant ce vote, dans la mesure où il y avait eu un débat, dans la mesure où je savais que j'avais cette émission à faire, j'ai pris l'initiative d'écrire à l'ensemble des députés européens du nord de la France, ceux qui s'étaient présentés à nos suffrages, hein, sur les députés démocrates. Je leur ai écrit à 10 en leur demandant comment qu'ils allaient se positionner sur cette directive. Sur les 10 députés, il y en a 3 qui sont de droite, il y en a 5 qui sont socialistes, il y en a une plus exactement, qui est vert, et il y en a un qui est PC. Alors je leur ai demandé de se positionner et puis de me répondre. Le député vert, c'est la députée d'Arras, elle est d'Arras, donc elle avait fait une réunion, je suis allé écouter son positionnement. Le député du PC m'a répondu, 3 des 5 députés socialistes m'ont répondu, tous m'ont répondu qu'ils voteraient contre cette directive. Les 3 députés de droite, qui sont affiliés à l'UMP tous les 3, dont Madame Tokia Saifi, une ancienne ministre, ne m'ont pas répondu. Alors ensuite, quand le vote a eu lieu, j'ai regardé qui avait voté quoi. J'ai constaté que les 3 députés de droite ont voté oui à la directive, avant les amendements et après les amendements. Et par contre, les 7 députés de gauche ont voté non à la directive. À la fois Hélène Faute, lors d'une réunion publique, et Madame Lindemann, par courrier, m'ont répondu. Je vous signale quand même qu'à tous les députés européens, je leur avais dit « j'attends votre réponse et j'indiquerai quelle a été votre réponse ». Alors, je vous lis son texte. « Vous m'avez sollicité au sujet du vote concernant la directive Bolkestein. je tenais à vous expliquer mon vote et celui des socialistes français. Nous avons voté en faveur du rejet du texte, considérant qu'il n'était pas possible d'obtenir un bon résultat à partir d'une mauvaise base et d'une logique qui abandonnait la ligne qui devait prévaloir en Europe, à savoir l'harmonisation des règles. Ensuite, j'ai voté tous les amendements qui amélioraient le texte afin d'éviter la politique du pire. Et j'ai voté contre le texte final qui, s'il était moins catastrophique que le projet initial, demeure dangereux pour notre modèle social et les services publics. Donc, cette lettre vient de Marie-Noëlle Lilleman, qui était aussi une ancienne ministre députée européenne et qui était socialiste.
Alors, qu'est-ce que tout ce débat et toutes ces réponses, qu'est-ce que vous en tirez comme réflexion ?
Oui, parce qu'en fait, que penser de tout ça ? La première réflexion qui m'est venue concerne la démocratie. J'aurais tendance à dire que quand on exerce son pouvoir de citoyen, quand à l'occasion d'un référendum on dit ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, quand on va dans la rue et puis qu'on le fait savoir, ça porte des fruits. Le Parti socialiste, globalement, était favorable au traité constitutionnel qui entendait constitutionnaliser une Europe dans une logique libérale. Quand il s'agit d'opérationnaliser cette logique libérale dans le domaine des services, il a voté contre. On peut penser que la pression populaire, le vote au référendum, a joué dans cette évolution des socialistes. On peut dire la même chose pour le Parti des Verts. Les Verts aussi s'étaient prononcés majoritairement pour le traité constitutionnel. Et on s'aperçoit que, au niveau français, on a un mouvement de cet ordre-là. Ce deuxième aspect est aussi à resituer au niveau européen. La position des députés français ne rejoint pas les positions des autres députés de la même couleur dans leur pays. Le Parti socialiste européen, majoritairement, avait fait alliance avec la droite pour trouver un compromis autour de la directive Bolkestein. C'est-à-dire que la pression populaire fait que nos députés ont été plus à gauche que la majorité des députés de leur même sensibilité dans les pays européens. Ça, je crois que c'est une première chose, et qu'à certains moments, quand on se demande à quoi ça sert de manifester, à quoi ça sert de dire ce qu'on pense, à quoi ça sert de dire à nos élus qu'on n'est pas d'accord quand ils font des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, ça a un certain effet. Deuxième chose qui m'a apparu quand même, alors qu'on disait que sur l'Europe, il y avait consensus, il y a quand même une différence entre la droite et la gauche. Là, sur 10 députés, tous les députés de droite ont voté pour le projet de directive Bolkestein libérale. Et tous les députés de gauche de notre secteur ont voté contre. À la fois, on peut avoir une analyse critique sur la gauche française par rapport au rôle qu'on attendrait à ce qu'elle joue. On ne peut pas dire non plus la droite et la gauche, c'est exactement la même chose. C'est une illustration, quoi.
Alors peut-être autre réflexion que donc ce débat vous a évoqué.
Alors l'autre réflexion, c'est sur la place de l'information au niveau dans la démocratie. Parce que pour que la démocratie fonctionne, il faut que l'information circule. Et l'autre jour, j'écoutais, alors sur France Inter, le journaliste interrogeait M. Emmanuelli et dit « Mais enfin, la directive Bolkestein a été modifiée, le pays d'origine n'est plus mentionné, et donc la portée de la directive Bolkestein n'a plus d'importance. En plus, le Parti populaire européen et le Parti socialiste européen se sont mis d'accord sur un compromis. La directive Bolkestein, à la limite, on n'en parle plus, c'est hors sujet. Cette manière de présenter l'information a plutôt tendance à faire endormir le monde. Vous avez eu peur, mais c'est terminé. Dormez tranquille, braves gens. Cet autre aspect de l'information m'est revenu par un autre biais. Je suis militant de Culture et Liberté, et au niveau de Culture et Liberté nationale, chaque année, l'organisation nationale dépose des demandes de financement à Jeunesse et Sport sur des sujets qu'il entend aborder dans le cadre de sa fonction d'éducation populaire. Et pour 2006, le mouvement national proposait de travailler sur l'Europe, pour sensibiliser sur les aspects de l'Europe. Le ministère de Jeunesse et des Sports a répondu « L'Europe est un sujet non prioritaire », je cite. Et pour ça, il n'y a pas de subvention possible. C'est-à-dire que, alors que pendant un an, il y a eu un élément de réflexion sur l'Europe, comme la réflexion n'a pas conduit à ce que les gens fassent ce que les élus entendaient qu'ils fassent, l'État coupe les finances de l'information. Donc, la directive Bolkestein, je crois, n'est pas enterrée. La directive Bolkestein continue de fonctionner et il y a nécessité, il y aura une prise de position du chef de l'État, il y aura probablement une deuxième ou une troisième lecture. C'est quelque chose qui va durer dans le temps et il faut regarder de près la mise en place de cette Europe-là. Déjà au moment des élections, M. Barnier disait « Si les Français votent non au référendum, eh ben on les refera voter quelques années d'après. » Cette idée-là n'est pas tombée complètement. Sarkozy, dernièrement, a dit « Il faudra faire revoter le traité constitutionnel, mais cette fois, on le fera voter par le Parlement pour ne pas prendre de risques. » La nécessité d'information, la nécessité de suivre les dossiers est importante si on veut faire vivre la démocratie chez nous. Et c'est payant.
Paul Masson, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mardi, dans Info 30. D'ici là, signalons que cette séquence, bien sûr, vous pouvez y réagir, auditeur, en téléphonant au 03 21 50 99 99, 03 21 50 99 99, ou en laissant vos messages, vos questions, vos réactions à l'adresse internet suivante pfm@radiopfm.com.